Bonjour à toutes et tous, je suis Magali de la coordination nationale du dispositif Accès et je suis aujourd'hui en compagnie de Natalia, monitrice éducatrice au service spécialisé Les Lucioles et qui va nous partager un peu de son expérience niçoise. Ensemble, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Les personnes transgenres sont-elles victimes de traite des êtres humains ? Pour commencer, Natalia, peux-tu nous présenter le service dans lequel tu travailles ?
Oui, bien sûr. Donc, nous sommes un service spécialisé, les Lucioles. C'est un service spécialisé qui s'occupe d'accompagner les personnes qui sont victimes de traite et en situation de prostitution. Le service existe depuis 1968. Vous imaginez bien qu'il y a vécu un certain nombre d'évolutions depuis. Ce qui reste actuel, c'est que nous portons des valeurs d'aller vers les personnes à travers des maraudes, des actions individuelles ou collectives, qui peuvent viser à la prévention, les liens sociaux, leur insertion, l'accès aux droits, aux soins aussi. Les personnes sont libres d'adhérer ou pas à l'accompagnement. C'est l'essentiel pour nous.
Natalia, qu'observes-tu depuis 2018 en termes d'évolution du public ?
Alors, il y a eu plusieurs évolutions des publics accueillis aux Lucioles, dans la rue et dans les services. Aujourd'hui, 95% sont des personnes d'origine étrangère. Si la communauté nigériane est majoritaire, à ce jour, celle de l'Amérique latine, elle est aussi fortement représentée. Il s'agit principalement des personnes transgenres originaires du Pérou. Par rapport à ce que nous observons de l'évolution du public, il faut dire qu'il y a un rajeunissement de cette population, une moyenne d'âge de 40 ans en 2015 et de 34 en 2018.
Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet en faisant un focus donc sur ces personnes transgenres qui viennent d'Amérique latine. D'ailleurs, pourquoi employer le terme transgenre ?
Alors, nous avons choisi d'employer le terme transgenre car il nous semble plus adapté aux personnes que l'on reçoit, car il n'y a pas tout le public qui souhaite être opéré. Globalement, elles sont âgées de 20 à 65 ans. Elles sont majoritairement originaires du Pérou, mais on a aussi certains qui viennent de Venezuela, de l'Argentine, Colombie ou Brésil. Elles sont toutes d'apparence féminine et la plupart ont leur état civil masculin. Seuls certains ont fait les changements. Certains bénéficient d'un titre de séjour, d'autres sont encore en situation irrégulière. La plupart ont d'expériences professionnelles, comme la coiffure, esthéticienne, couture, restauration, et certains sont d'ailleurs venus ici avec une promesse de formation ou d'embauche, dans un métier qui les intéressait. En cela, il faut dire qu'ils ont été bien dupés. Il y a l'exemple de Carla, une bénéficiaire de 28 ans, qui est venue avec une promesse de formation professionnelle en coiffure parce qu'il a fait venir en France. Et il s'est trouvé le lendemain de son arrivée dans une rue de Nice à se prostituer pour la première fois dans sa vie.
Donc tu parles de fausses promesses, du fait qu'elles aient été dupées. Il y a donc des indices qui font penser aux trois éléments constitutifs de la définition de la traite des êtres humains, qui dit que pour qu'une personne soit victime de traite, il faut qu'il y ait une action, telle que le transport, le transfert ou encore le recrutement, un moyen qui en général est la contrainte et en fait un but qui peut être bien évidemment l'exploitation.
Donc concernant l'action, concernant justement la phase de recrutement, pour leur départ, elles peuvent obtenir une visa touristique de 3 mois pour entrer en Europe. Elles sont souvent en contact à Nice ou bien elles sont recrutées directement dans leur pays. Elles peuvent venir ici avec leur maman ou bien celle-ci organise les voyages à distance. La maman, c'est la personne qui s'occupe de les faire venir et qui va préparer son voyage et son arrivée sur place. Les mamans sont souvent donc des personnes qui sont passées par le même système de recrutement et qui ont pris avec le temps une certaine place et du pouvoir au sein de la communauté.
Quel est le rôle de cette maman ?
Alors, la maman a un rôle d'entremetteuse. Elle leur propose de venir s'installer ici sous condition de payer une somme. Cela comprend les billets d'avion, ils sont donc transférés, ainsi qu'une place dans la rue et un hébergement, voire une orientation vers notre service. Nous faisons partie du package. La plupart du temps, elles ne sont pas conscientes qu'il s'agit de proxénétisme.
Ont-elles des dettes ?
Les dettes vont de 3 000 à 5 000 euros à peu près. Elles sont donc dues payées pour ces packages qu'elles doivent rembourser une fois arrivées ici. Il faut noter que même quand tout a été réglé, nous repérons des phénomènes très très forts d'emprise et de contraintes de la communauté. Les mêmes paradoxes existent entre soutien et contraintes. Et il reste impossible d'agir librement et de s'en sortir sans subir des pressions ou des violences. La plupart d'entre elles sont hébergées par la communauté ou logées dans des hôtels meublés ou des appartements précaires au loyer souvent exorbitant.
Donc on voit bien qu'il y a au niveau de l'action, si on reprend la définition de la traite des humains, il y a évidemment, tu parlais du transfert, du recrutement, de l'emprise, de la contrainte. Donc ce sont les éléments constitutifs de la traite des êtres humains. Et quels sont, donc, au niveau des moyens, quelles contraintes sont exercées sur elles au quotidien?
Alors, il faut dire qu'elles sont déjà la problématique liée au genre, au rapport de l'identité, constituée déjà en soi, compte tenu de leur situation sociale au pays, en état de vraie vulnérabilité. Notamment quand on sait qu'il leur est vital de financer les frais liés à leurs opérations et au traitement hormonal et médical.
Et pour quelles raisons elles partent de leur pays?
Alors, il y en a beaucoup de raisons. Parmi ces raisons, il faut noter que une des raisons, c'est vraiment de pouvoir être accepté par rapport à leur identité. Ça, c'est un réel moteur. Chez elles, elles sont victimes d'une forte discrimination et de transphobie, tant sur le plan sociétal que familial. Elles sont issues de familles très modestes ou pauvres et leurs conditions économiques sont donc une vraie motivation pour leur départ. Par la suite, elles se sentent souvent responsables d'envoyer de l'argent à leur famille pour les aider à s'en sortir. Nous avons l'exemple de Monica, qui a 40 ans, qui envoie chaque mois 300 euros à son petit frère pour qu'elle puisse faire ses études universitaires et devenir avocat.
Existe-t-il des particularités dans cette communauté?
Oui, celles qui ont le pouvoir, par exemple, vont obliger les nouvelles et les autres à entrer dans ces systèmes où il faut respecter un certain nombre de règles et de codes. On peut donner comme exemple, dans ces règles, on peut trouver aller manger chez Rosa les dimanches, participer par exemple à la junta, système de prêts solidaires entre elles, c'est comme la tantine, ou consommer des substances, etc. Si les règles ne sont pas respectées, les personnes sont souvent punies. Elles peuvent être victimes de violences, des agressions, de harcèlement. Nous ne sommes souvent témoins au service de ces situations. Tout cela favorise un sentiment d'appartenance au groupe, mais les enferme aussi dans un système où leur liberté est restreinte. Des dettes sont contractées. Elles expriment aussi souvent des sentiments de culpabilité, que ce soit par rapport à l'orientation sexuelle ou les choix de vie ou de genre. Ils se sacrifient et prennent en charge leur famille, souvent les parents âgés.
Et est-ce qu'elles savent qu'elles vont venir ici pour se prostituer?
Certains le savent et sont conscientes, et d'autres, ils ne sont pas du tout conscients et ils pensent qu'ils vont venir à faire un autre métier et ils sont complètement dupés par rapport à ça.
Et si donc on revient donc au dernier pilier hein, de la définition de la traite des êtres humains, c'est-à-dire le but, qui est toujours le même, on l'a déjà dit au début de l'entretien, qui est l'exploitation, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, à leur exploitation?
Alors, l'exploitation, c'est l'exploitation de la prostitution. Faute des autres solutions incitées par la communauté, elles sont contraintes de se prostituer pour rembourser la dette et s'en sortir.
Très bien. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler du type d'accompagnement que vous proposez au service des Lucioles pour ces publics-là?
Oui, alors, généralement, elles s'adhèrent souvent aux actions collectives ainsi qu'à notre accompagnement car elles ont besoin de soutien, d'informations pour accéder aux droits en France. Et dans notre service aux Lucioles, nous tentons de leur faire entendre que d'autres solutions légales existent. En 2018, par exemple, nous avons eu 4 bénéficiaires qui ont été victimes d'agressions dans la rue en lien avec leurs dettes et des problèmes de place. Elles ont sollicité notre soutien et ont pu déposer plainte auprès de la police judiciaire. L'une de ces victimes a pu bénéficier d'un hébergement d'urgence pendant 11 mois et d'être protégée de la communauté et éloignée de son agresseur qui a été jugé pour proxénétisme aggravé. Cette personne a pu intégrer un CHRS pour femmes et pour la soutenir dans sa demande d'arrêter la prostitution ainsi qu'un projet d'insertion. D'autres personnes ont pu bénéficier d'un titre de séjour au titre de l'article L316-1 pour 10 ans avec autorisation au travail. Donc nous faisons un accompagnement global pour ces personnes et nous travaillons aussi tout l'aspect de prévention et de santé et accès aux soins.
Tout à l'heure, tu évoquais le phénomène de violence dont peuvent être victimes ces personnes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Alors oui, effectivement, ce public est souvent victime de violences. Donc nous tenions à faire un rappel par rapport à ces agressions et les violences auxquelles sont sujettées les personnes que nous rencontrons. Il faut savoir que 231 témoignages LGBT-phobes ont été signalés en 2018, une progression de 66% en un an. Donc la transphobie représente 13% de ces témoignages. Il est rappelé que la précarité, l'âge, l'handicap, la non-conformité du corps sont autant de critères qui peuvent rendre les personnes LGBT encore plus vulnérables et les exposer à davantage de discrimination et de violence. Nous pouvons parler donc d'un concept qui s'appelle intersectionnalité, c'est justement la conjugaison de plusieurs facteurs de discrimination. Et que dire alors des personnes qui sont en plus étrangères, transgenres, en situation de prostitution, cumulant parfois des difficultés? Elles sont d'autant plus en risque d'être victimes d'agressions et de discrimination. Pour les personnes trans, les violences ne s'arrêtent pas aux fréquentes agressions dans la rue. Il y a aussi celle de l'administration, qui est encore plus insidieuse et les touche aussi. Le défenseur des droits signale d'ailleurs que même lorsqu'il n'y en a pas eu de changement d'état civil officiel, appeler les personnes par son identité civile lorsque cela ne coïncide pas avec leur identité représentée par la personne est un acte transphobe.
Et avez-vous pu mener des actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre cette discrimination et cette violence ?
Oui, donc comme je disais, nous essayons aux Lucioles de les faire comprendre qu'en France, il y a des droits et quels sont les droits, par exemple, de porter plainte et suite à une agression. Et donc, nous les accompagnons dans ces démarches et dans tout ce que c'est les démarches juridiques aussi. Par rapport à la sensibilisation de public et de partenaires, nous avons réalisé en 2018, grâce au financement dans le cadre d'un projet avec la DILCRA, donc la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'haine anti-LGBT. Donc ce film a été réalisé avec des bénéficiaires et avec des partenaires pour sensibiliser justement à la question de que faire en cas d'agression transphobe.
Natalia, où est-ce qu'on peut le trouver ce film ?
Oui, nous avons ce film et vous pouvez nous le demander et il peut être diffusé dans un cadre seulement professionnel.
Alors, on arrive à la fin de notre podcast. Donc, pour conclure, on peut dire que dans le cas des ressortissants donc d'Amérique latine, de ces personnes transgenres originaires du Pérou, nous trouvons des indicateurs de la définition légale de la traite des êtres humains, à savoir le recrutement, le transfert d'une personne dont on abuse de la situation de vulnérabilité en vue de son exploitation sexuelle. Mais au-delà de l'aspect victimaire, comment toi, tu perçois ces personnes dans leur quotidien ?
Alors, ces personnes, en fait, même si on les voit seules dans les salles d'entretien, elles ne sont pas forcément isolées. Elles sont prises dans ces contextes, dans des relations et occupent une place particulière dans leur communauté, dans leur famille. En fait, une majorité de ces personnes portent le poids d'une histoire, une culpabilité, une dette et parfois un sentiment de honte qui va jusqu'au sacrifice, entre guillemets, au nom de leurs proches. Il faut envoyer de l'argent à sa mère au pays, lui construire une maison, payer l'école de ses frères et sœurs, s'assurer que son père ait un traitement. Dans certains cas, c'est même la famille qui est complice de l'exploitation. Ces publics fragilisés au parcours semé de violences, de ruptures ou exil s'ajoutent à l'épreuve de l'immigration. Certains souffrent de traumatismes sévères. Mais je tenais à souligner qu'ils sont aussi une force de caractère énorme et une grande capacité de résilience. Car il faut aussi, pour s'efforcer de vivre et se tenir debout après leur parcours, souvent vraiment chaotique. Je tiens à souligner qu'il peut être lourd, complexe de travailler avec elles, en lien avec tout ce que nous venons de dire, leurs souffrances, leurs difficultés, et nous n'essayons pas à parler d'elles d'un modèle manichéen. Elles sont complexes, sensibles et dures à la fois, en difficulté et pourtant pleines de rire, de force et de créativité. Elles sont vraiment surprenantes. Ce public me rappelle parfois au personnage d'Almodovar. Elles peuvent être dramatiques et jouer avec cela, en rire et nous faire rire aussi, par force, par nécessité, pour jouer du sort. Elles sont aussi capables de nous chanter la vie en rose et en plein travail de rue.
Merci Natalia pour ce beau témoignage qui se termine sur une facette colorée, riche et pleine de douceur aussi.
Merci à toi Magali.